Bonjour tout le monde, bienvenue dans Éprouvette, la science sans se prendre la tête. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie génétique qui touche encore trop de personnes, la mucoviscidose. Pour nous éclairer sur le sujet, nous accueillons Amy. Peux-tu nous expliquer d'où vient cette maladie et pourquoi certaines personnes en sont atteintes ?
Bien sûr. Imaginez que votre corps fonctionne comme une grande ville avec un réseau de canalisation permettant à l'eau de circuler librement et d'alimenter chaque quartier. Maintenant, imaginez que cette eau devienne épaisse et collante, bouchant peu à peu les tuyaux. Résultat, le réseau s'engorge, rendant l'entretien difficile. C'est exactement ce qui se passe dans le corps des personnes atteintes de mucoviscidose. Cette maladie est causée par une mutation génétique affectant le gène CFTR de l'anglais cystic fibrosis, transmembrane régulateur, situé sur le chromosome 7. Une mutation est une modification du gène. Ce gène joue un rôle essentiel dans le transport du sel et de l'eau à travers les cellules. Lorsque ce gène est altéré, la mutation la plus courante étant delta F508, la protéine CFTR ne fonctionne plus correctement. Conséquence, le mucus, normalement fluide et protecteur, devient épais et collant, bloquant les voies respiratoires, digestives et sexuelles. Dans les poumons, cette accumulation de mucus gêne la respiration. Respirer devient alors un effort constant, comme si on essayait de gonfler un ballon percé. Et au niveau digestif, l'absorption des nutriments devient difficile. La mucoviscidose peut aussi entraîner une infertilité chez les hommes et chez les femmes. Par ailleurs, le mucus épais crée aussi un environnement propice aux infections bactériennes et virales. Les poumons des personnes atteintes sont particulièrement vulnérables à des agents pathogènes comme Staphylococcus aureus qui peuvent provoquer des infections chroniques difficiles à traiter. Ces infections contribuent à la dégradation de l'état général du patient, car le système immunitaire est déjà très sollicité et affaibli.
Mais peux-tu nous expliquer comment se transmet cette maladie ?
La mucoviscidose est une maladie génétique récessive, ce qui signifie qu'elle ne se développe que si une personne hérite du gène muté de ses deux parents. Ces derniers peuvent être porteurs sains, c'est-à-dire qu'ils possèdent la mutation sans être eux-mêmes malades. Cela explique pourquoi la maladie peut apparaître soudainement dans une famille. En Europe, environ une personne sur 30 est porteuse de cette mutation, sans le savoir. Pour lutter contre la mucoviscidose, je vous invite à faire des dons à l'association Vaincre la mucoviscidose. Elle joue un rôle essentiel en soutenant la recherche, en aidant les patients et leurs familles et en sensibilisant le public.
Merci beaucoup, Amy. Maintenant que nous savons tout ça, notre ami Gabriel est allé interviewer des personnes de tous les âges afin d'observer ce qu'en pensent les castro-gontériens.
Bonjour Raphaël. Effectivement, je suis allé à la rencontre des habitants de Château-Gontier pour voir leurs connaissances sur la mucoviscidose.
Bonjour, je suis un élève de première SVT. Est-ce que vous accepteriez que je vous pose quelques questions ?
À quel sujet ?
Au sujet de la mucoviscidose.
Oui.
Vous savez, quand vous avez du mucus épais, hein, de la morve dans le nez,
ouais.
C'est dérangeant. Pourquoi on est content quand ça s'arrête ?
Ah bah parce qu'on quand ça s'arrête, on respire mieux, on a moins mal à la tête, on sent moins fatigué et voilà, c'est voilà, le rhume qui s'arrête.
Vous savez que on peut avoir aussi du mucus dans le tube digestif et dans les poumons. C'est la mucoviscidose, vous connaissez ou pas ?
Bah pas plus que ça en fait, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler mais en fin de compte, je sais pas exactement ce que c'est. Je sais qu'effectivement, c'est un problème lié aux voies respiratoires. Mais comment ça fonctionne et comment se déclare la maladie ? Non, je ne sais pas exactement.
En fait, c'est au niveau du tube digestif et des poumons, c'est la morve qui va se créer à ces niveaux-là.
Ouais.
Et du coup, ça va s'accumuler, ce qui va empêcher de bien respirer.
D'accord.
Vous savez qu'en Mayenne, par exemple, la moyenne environ chaque année, c'est 22 cas.
Ah non, je ne savais pas du tout.
C'est l'une des maladies les plus répandues en Europe.
Ah bah, vous me l'apprenez.
Bon bah, merci d'avoir répondu à mes questions.
Avec plaisir, vous m'avez appris des choses, merci à vous.
La mucoviscidose a été majoritairement popularisée par la mort de Grégory Lemarchal, qui est décédé de cette maladie en 2007. Après avoir interrogé les castro-gontériens, on remarque que la majorité connaissent cette maladie, mais seulement de nom, pas spécialement les causes de celle-ci.
Eh bien merci, cela a été très intéressant, et maintenant nous allons accueillir Gwenola. Aujourd'hui Gwenola, tu vas nous parler des traitements qui existent pour vivre avec la mucoviscidose.
Eh oui, il existe en effet des traitements pour la mucoviscidose. Mais ceux-ci ne permettent pas d'éliminer la maladie. Ils aident seulement les patients à mieux vivre avec et plus longtemps. En effet, l'espérance de vie des malades est passée de 5 ans vers 1960 à 40 ans aujourd'hui. Ils peuvent donc avoir une vie de famille et une descendance.
Très bien, et quels sont ces traitements ?
Plusieurs sortes de traitements existent. Dans un premier temps, il y a les traitements palliatifs. Ils servent à atténuer la maladie pour le confort du patient, souvent en fin de vie, sans pouvoir agir sur la cause. L'objectif est de prévenir et de soulager les douleurs physiques, les symptômes inconfortables et la souffrance psychologique. Dans cette grande catégorie, on trouve la kinésithérapie respiratoire. Celle-ci sert à faciliter l'évacuation du mucus. Il existe aussi la nébulisation d'antibiotiques. Le patient inspire alors de fines gouttelettes d'antibiotiques en suspension dans l'air qui agissent directement sur le lieu de l'infection. Cette méthode est utilisée lors d'infections bactériennes. Enfin, on retrouve la greffe de poumon, utilisée en dernier recours.
Ce sont les traitements dont on entend le plus parler, mais est-ce qu'il en existe d'autres ?
Oui, dans un deuxième temps, on retrouve les thérapies protéiques, des thérapies basées sur des médicaments, ici le Calideco. Elles agissent directement à l'origine de la maladie, sans pouvoir la traiter complètement. Ce médicament est destiné uniquement aux patients porteurs de la mutation génétique G551D. Cela représente environ 2,2% des patients. Cette mutation entraîne un défaut de fonctionnement de la protéine CFTR. Le médicament vise donc à améliorer ce fonctionnement. Les études ont montré une efficacité clinique remarquable.
Voilà un beau message d'espoir, mais y a-t-il d'autres traitements pouvant être prometteurs ?
Bien sûr, dans un troisième temps, nous avons la thérapie génique in vivo. Cela consiste à implanter le gène CFTR sain dans les cellules des muqueuses du patient pour compléter celles défaillantes. Le moyen n'est pas très efficace dans le temps, en effet, il provoque des effets secondaires importants. Dans un dernier temps, il existe d'autres traitements, mais ils ne sont pas concluants. Les scientifiques sont donc très actifs dans ce domaine de recherche. Des pistes sont très prometteuses, comme la thérapie protéique avec la mutation la plus courante, F508DEL, ou encore la thérapie génique ex vivo pour modifier les cellules souches malades. Ces recherches ne sont pas faciles car il existe plus de 1400 mutations différentes du gène CFTR.
Très bien Gwenola, merci beaucoup. Ensuite, nous recevons Talia et Morgane. Bonjour Talia, bonjour Morgane. Vous avez interviewé Monsieur Catoline sur la mucoviscidose. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous recevons dans notre émission Daniel Catoline, qui est un scientifique spécialisé en chimie. Il a accepté de répondre à nos questions sur la mucoviscidose.
Pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail votre métier et votre parcours ?
Bonjour. Après un doctorat en chimie, c'est-à-dire Bac plus 8, j'ai changé de branche et obtenu un poste d'ingénieur de recherche en biochimie dans une école d'ingénieurs du ministère de l'Agriculture. Mes fonctions étaient de faire fonctionner le laboratoire tant pour la réalisation des travaux pratiques des étudiants que pour la partie recherche où j'ai travaillé sur le métabolisme des acides gras. L'objectif étant de mieux comprendre le rôle de ces acides gras pour préciser les besoins chez l'homme et donc les apports nutritionnels.
Que pouvez-vous nous dire sur les maladies monogénétiques et ce que vous pouvez nous donner la définition ?
Une maladie génétique est due à une ou plusieurs anomalies situées sur un gène. Elle conduit soit à l'absence de la protéine, soit à une protéine non fonctionnelle. Il existe d'autres formes de maladies génétiques non liées à la séquence de l'ADN.
Nous allons parler plus spécifiquement de la mucoviscidose dans la suite de l'interview. Mais avant ça, quelles sont les autres maladies monogénétiques ?
Parmi les plus fréquentes, on peut citer la drépanocytose qui cause une déformation des globules rouges conduisant à une anémie. La trisomie 21 est définie comme la présence d'un troisième exemplaire du chromosome 21 induisant un retard mental et des malformations physiques. La myopathie de Duchenne, une maladie évolutive touchant à la capacité des muscles à résister à l'effort. L'hémophilie est une anomalie de la coagulation sanguine due à un déficit dans l'un des facteurs de coagulation. Elle ne touche quasiment que les hommes. Le syndrome de X fragile est causé par une mutation d'un gène situé sur le chromosome X. Elle s'exprime par des troubles du comportement, un déficit intellectuel et des anomalies physiques. Enfin, l'hémochromatose de type 1 provoque une accumulation de fer dans l'organisme, le foie en particulier, pouvant conduire à la cirrhose et à des cancers.
La mucoviscidose concerne une naissance sur 4500 en France. Elle fait partie des maladies monogénétiques. Pouvez-vous nous expliquer cette maladie ?
C'est une maladie autosomique, c'est-à-dire liée à l'altération d'un chromosome non sexuel et récessive. Elle ne s'exprime que chez les personnes portant deux allèles mutés du gène CFTR, situé sur le chromosome 7. Il y a de grosses différences régionales, deux à trois fois plus présentes en Bretagne que dans le sud-ouest de la France. La protéine CFTR est présente dans la membrane de cellules de différentes muqueuses respiratoires, digestives. Elle fonctionne comme un canal permettant l'échange d'ions chlorure entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Lorsque son gène est muté, le canal dysfonctionne. Cette altération se traduit notamment par une diminution de l'eau excrétée au niveau des muqueuses et en conséquence par une inflammation, un épaississement du mucus qui la recouvre.
Quelles sont les conséquences de la mucoviscidose sur les personnes atteintes de cette maladie?
Les principaux symptômes sont respiratoires dus à l'épaississement du mucus qui tapisse la paroi des alvéoles pulmonaires, ce qui empêche une respiration normale. Il y a aussi des atteintes du pancréas et des problèmes digestifs liés à l'absorption des graisses.
À quel moment peut-on détecter la mucoviscidose?
La mucoviscidose est recherchée à la naissance dans un test sanguin, quelques gouttes de sang prélevées au talon du bébé. Ce test est obligatoire en France depuis 2002.
Quels sont les traitements utilisés aujourd'hui? Comment évolue la médecine?
Dès l'établissement du diagnostic, les personnes atteintes de mucoviscidose sont suivies au sein de centres de soins spécialisés, les centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose. Le traitement qui leur est proposé a longtemps été symptomatique, kinésithérapie respiratoire, afin de réduire les manifestations de la maladie et leurs complications. Mais depuis quelques années, la prise en charge est devenue spécifique grâce au développement de molécules qui pallient les défauts de fonctionnalité de la protéine CFTR. Elles agissent soit en augmentant le nombre et la disponibilité de la protéine, soit en améliorant sa fonctionnalité au niveau de la membrane cellulaire. Les recherches actuelles sont orientées vers la thérapie génique, avec plusieurs possibilités. On peut apporter le gène CFTR non muté à l'aide d'un virus non pathogène dirigé vers les cellules pulmonaires. On peut apporter directement aux cellules l'ARN messager codant pour la protéine CFTR. On peut aussi envisager de modifier les cellules pulmonaires en utilisant le système CRISPR-Cas9, qui sont des ciseaux moléculaires qui permettent de modifier le génome d'une cellule et d'y introduire le gène non muté. Cette modification est transmise aux cellules filles.
Merci de nous avoir consacré votre temps, de nous avoir éclairé, nous et nos auditeurs, sur la mucoviscidose. Je vous invite à aller voir le film Respire, sorti le 28 mars 2025, qui est un documentaire qui suit la vie de jeunes personnes atteintes de la mucoviscidose, passionnées de sport et de montagne. Ce documentaire les suit pendant 4 ans. De leur parcours empreint de courage et d'espoir, alors qu'un traitement révolutionnaire se profile promettant de transformer leur vie.
Très bien, merci à vous les filles, et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Au revoir tout le monde.
Bonjour mesdames et messieurs, savez-vous ce qu'est l'antibiorésistance? L'antibiorésistance, c'est une capacité d'une bactérie à résister à l'action d'un antibiotique. Mais savez-vous d'où elle vient réellement? Aujourd'hui, nous recevons 4 élèves du lycée Victor Hugo et un de leurs invités bien spécial. Premièrement, retrouvons l'un d'entre eux, Lenny, qui a pu nous préparer un micro-trottoir sur la connaissance des gens à ce sujet.
Oui, alors je me suis aventuré dans les rues désertes de ce désert médical et j'ai réussi à trouver 3 personnes volontaires afin de répondre à quelques questions personnelles sur leur connaissance sur les antibiotiques.
Bonjour, alors aujourd'hui pour notre première interview, on va interviewer
Philippe, 58 ans.
Et on va lui poser quelques questions sur les antibiotiques. Alors, Philippe, savez-vous ce qu'est un antibiotique?
Oui, c'est un médicament que l'on prend quand on a une infection.
D'accord. Avez-vous déjà pris des antibiotiques?
Oui.
Si oui, avec ou sans ordonnance?
Avec ordonnance.
Et est-ce que vous en avez déjà pris sans ordonnance?
Non.
Savez-vous déjà s'il faut arrêter de prendre un antibiotique avant la période prescrite, ou s'il y a des complications?
Non, il faut aller jusqu'au bout du traitement.
Et connaissez-vous les dangers de la prise excessive d'antibiotiques?
Non.
Intéressant. Bonjour, je vais vous poser quelques questions sur les antibiotiques. Savez-vous ce qu'est qu'un antibiotique?
Oui, je sais ce que c'est. C'est un médicament pour contrer les maladies.
Est-ce que vous avez déjà pris des antibiotiques?
Oui, sur ordonnance du médecin.
Est-ce que vous en avez déjà pris sans ordonnance, du coup?
Non, jamais.
Et vous suivez le traitement d'antibiotiques jusqu'à la fin de la période prescrite?
Bien sûr, je respecte toujours les ordonnances du médecin.
Et est-ce que vous connaissez les dangers de la prise excessive d'antibiotiques?
Pas du tout. Je serais curieux de les connaître.
Intéressant. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom et votre âge, s'il vous plaît?
Timéo Belloir, 15 ans. Ok, super. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est un antibiotique ?
Oui, c'est un médicament.
Très bien. Et est-ce que vous avez déjà pris des antibiotiques ?
Oui, pour me soigner.
Ok. Est-ce que vous en avez déjà pris sans ordonnance ?
Oui, de temps en temps, mais sans trop.
Est-ce que vous avez déjà arrêté la prise d'un antibiotique avant la période prescrite ?
Oui, quand je ne suis plus malade, je n'en prends plus.
Ok, très bien. Et est-ce que vous connaissez les dangers de la prise excessive d'antibiotiques ?
Oui, ça peut être dangereux pour le foie.
Bah merci beaucoup à vous, Léni. Cela nous prouve que les gens ont des connaissances assez réduites sur le sujet dû sûrement, je pense, à un gros manque de communication autour de ce problème. Mais en gros, on en arrive comment à cette résistance aux antibiotiques ? Pour répondre à cette question, Ethan et Amélie vont pouvoir nous répondre. Bonjour Ethan, bonjour Amélie.
Bonjour.
Donc, je vous pose la question. C'est quoi cette antibiorésistance ? Et comment elle se produit et c'est quoi ses conséquences ?
Donc tout d'abord, un antibiotique, c'est un médicament détruisant les bactéries ou limitant leur prolifération. En gros, l'antibiorésistance, c'est la capacité d'une bactérie à résister à l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est dangereux et peut être une cause de mortalité. Et oui, les antibiotiques deviennent inopérants.
Et donc, elle apparaît comment, cette antibiorésistance ?
Alors, l'antibiorésistance est due à des bactéries mutantes qui apparaissent naturellement. Normalement, l'antibiotique élimine les bactéries, mais les microbes mutants résistent à l'antibiotique et peuvent à présent se développer. Ces microbes peuvent alors transférer leur résistance aux autres microbes. Ce phénomène se nomme la sélection artificielle.
Quand sont apparus les antibiotiques et toute l'antibiorésistance ?
Le premier antibiotique, donc la pénicilline, est apparu en 1920. Suite à ça, la première résistance à cet antibiotique est apparue en 1940. Ensuite, plusieurs autres antibiotiques ont été trouvés, mais la plupart du temps, une antibiorésistance est apparue, en général en un an seulement. Selon les chercheurs, en 2050, les maladies infectieuses pourraient redevenir la première cause de mortalité.
Merci beaucoup à vous. Et à ce que j'avais cru entendre, il y a des conséquences à cette résistance. Mais c'est quoi les conséquences pour vous ?
Alors, les bactéries antibiorésistantes peuvent perturber les mécanismes de la vie cellulaire. Les conséquences de l'inefficacité des antibiotiques sont multiples, comme par exemple des maladies plus longues et plus difficiles à soigner, des consultations médicales supplémentaires ou alors des risques plus élevés lors d'interventions médicales. Ce qui fait en sorte que ces antibiorésistantes deviennent un véritable danger.
Merci beaucoup à vous, Ethan. Je me coucherai déjà moins bête ce soir, je pense, avec toutes ces informations en plus. Et bien maintenant, c'est à votre tour, Amélie, de nous parler, ou du moins d'aborder des points importants sur l'antibiorésistance. Vous allez donc nous expliquer la tuberculose, c'est ça ?
Oui, en effet. Bonjour à tous, je suis Amélie et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un exemple très connu de résistance aux antibiotiques, la tuberculose. Savez-vous que cette maladie, qu'on pense souvent oublier, est encore aujourd'hui l'une des plus dangereuses au monde ? La tuberculose est une maladie infectieuse causée par Mycobacterium tuberculosis. Elle touche surtout les poumons, mais elle peut aussi toucher d'autres organes. Si elle n'est pas bien traitée, elle peut être mortelle. Pendant longtemps, les antibiotiques ont permis de la contrôler. Mais aujourd'hui, la résistance est devenue un vrai défi mondial.
Mais alors, comment on en arrive à ce stade-là ?
Revenons un peu en arrière, au début du XXe siècle. La tuberculose était l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Aucun traitement efficace n'existait. Puis, dans les années 1940, on découvre la streptomycine, le tout premier antibiotique actif contre la tuberculose. Peu après, l'isoniazide et la rifampicine viennent à compléter le traitement. Grâce à ces thérapies combinées, on commence à voir une vraie amélioration. Mais à partir des années 1980-1990, des souches résistantes aux antibiotiques apparaissent. Et aujourd'hui, ce phénomène prend une ampleur inquiétante. Connaissez-vous les deux formes principales de tuberculose résistante ? La première s'appelle tuberculose multirésistante. La bactérie résiste aux deux antibiotiques les plus couramment utilisés, l'isoniazide et la rifampicine. La deuxième, encore plus grave, c'est la tuberculose ultra-résistante. Ici, la bactérie résiste aussi à plusieurs antibiotiques de seconde ligne, rendant le traitement extrêmement difficile, parfois même impossible. Mais alors, pourquoi cette résistance ? D'abord, à cause d'une mauvaise utilisation des antibiotiques, beaucoup de patients arrêtent leur traitement dès qu'ils se sentent mieux, laissant les bactéries les plus résistantes survivre et se multiplier. Ensuite, il y a une utilisation massive des antibiotiques dans l'élevage animal. Les bactéries résistantes peuvent passer des animaux à l'homme. Et puis, il ne faut pas oublier, comme j'ai déjà dit, que c'est une bactérie très résistante. Elle a une paroi épaisse qui la protège, elle peut rester dormante pendant des années dans le corps et son métabolisme très lent rend le traitement long et difficile.
Mais pourquoi on n'utilise pas simplement un vaccin ?
Bonne question, mais malheureusement, le seul vaccin disponible, c'est le BCG, qui protège surtout les jeunes enfants contre les formes graves. Mais il est peu efficace chez les adultes, ne prévient pas la transmission et surtout ne protège pas contre les formes résistantes. Des recherches sont en cours, mais pour l'instant, il n'existe toujours pas de solution définitive.
Ok, bah merci beaucoup à vous et je vois que c'est quand même un problème assez présent. Et encore merci beaucoup à vous. Mais c'est qui ? Qui est là ?
Bonjour, moi c'est la peste. On m'a crainte, on m'a fui, on m'a maudite. Pendant des siècles, j'ai été l'une des plus grandes menaces de l'humanité. Aujourd'hui, vous m'avez presque oubliée. Vous pensez peut-être que je ne suis plus qu'un souvenir dans vos manuels d'histoire. Mais détrompez-vous, je suis toujours là. Je suis née de la bactérie Yersinia pestis, une minuscule créature invisible à l'œil nu, mais redoutable. Je voyage grâce aux puces qui, elles-mêmes, vivent sur les rats. Et parfois, je change de forme, je deviens pulmonaire. Et là, je passe d'humain à humain, juste avec une toux. Ma spécialité, frapper vite. Fièvre soudaine, frissons, douleur, ganglions qui enflent, mes célèbres boutons. En quelques jours, je peux emporter votre vie. Et si je m'installe dans les poumons, la mort peut arriver en seulement 24 petites heures. Je vous ai fait trembler de 1347. En quelques années, j'ai effacé près de 25 millions de vies, rien qu'en Europe. Vous m'avez appelée la peste noire, à cause des taches sombres sur la peau de mes victimes. J'étais partout, dans les ports, les campagnes, les villes. J'ai changé la démographie, l'économie et la façon dont vous voyez la mort. Mais les siècles ont passé, vous avez progressé, vous avez découvert les bactéries, les vaccins, les antibiotiques. À un moment, vous avez cru avoir gagné, et oui, pendant un temps, ces médicaments m'ont véritablement affaibli. Je ne pouvais plus rien faire, mais vous avez baissé votre garde. Vous avez utilisé les antibiotiques pour tout et n'importe quoi, pour un rhume, pour une petite toux, parfois même pour les animaux, juste pour qu'ils grandissent plus vite. Et moi, j'ai observé. Ma famille bactérienne a évolué. Petit à petit, certaines versions de moi ont commencé à résister. Ce phénomène, vous l'appelez l'antibiorésistance. Moi, j'appelle ça une revanche. Aujourd'hui, dans des centaines de régions, il existe des cas de peste résistante aux antibiotiques. Ce sont encore des exceptions, mais pour combien de temps ? Que se passera-t-il quand je deviendrai totalement résistante ? Quand plus aucun traitement ne pourra m'arrêter ? Vous vous retrouverez peut-être face à une nouvelle pandémie. Et cette fois, je serai bien plus difficile à contrôler. Je ne dis pas ça pour vous effrayer, enfin peut-être un peu, mais surtout pour vous prévenir. Protégez vos antibiotiques comme un trésor, n'en abusez pas, soignez vos infections avec intelligence, car moi, la peste, je n'ai pas besoin d'être forte. Il suffit juste que vous soyez faible.
Ah bah ça, j'espère pas. Merci beaucoup à vous, Madame la Peste, et je vous avoue que j'espère ne plus vous revoir de sitôt. Et mesdames et messieurs, pour finir cette émission, je vous propose une petite revue de presse pour élargir nos connaissances et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Nous retrouvons donc alors Lola Fraisse, qui nous a épluché Internet dans le but de pousser nos connaissances. Merci, à toi Lola, je t'en prie.
Bonjour, pour vous, j'ai analysé le podcast de Science Chrono, La pandémie invisible. Retour en 1975. À cette époque, les antibiotiques sont au cœur de la médecine française. Un médicament sur trois en est un, et ils figurent parmi les plus vendus. Leur prix, élevé. Leur usage, fréquent, voire excessif. Très tôt, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Cette utilisation massive favorise la résistance des bactéries. Déjà, on identifie des mécanismes inquiétants. Certaines bactéries produisent des enzymes capables de désactiver les antibiotiques. D'autres deviennent, tenez-vous bien, dépendantes de ces médicaments, au point de ne survivre qu'en leur présence. Oui, comme une forme d'addiction. Mais ce n'est pas une drogue, c'est un outil thérapeutique. Et quand on l'utilise mal, on en paie le prix. Une dose trop faible, elle ne tue pas toutes les bactéries. Résultat, les plus résistantes survivent et se multiplient. C'est un peu comme une sélection naturelle accélérée dopée par des erreurs humaines. Et ces erreurs, on les retrouve partout. En médecine humaine, en élevage animal, où les antibiotiques sont utilisés pour faire grossir plus vite, et même en agriculture, pulvérisés sur les plantes. L'industrialisation massive a accentué la pression sur les bactéries. Dans les années 60 et 70, on croyait en une médecine toute puissante. Les antibiotiques étaient des miracles. Mais cette foi aveugle a nourri une industrie où le profit a parfois pris le pas de la prudence. Aujourd'hui, on le sait, l'antibiorésistance n'est pas nouvelle. Mais notre compréhension a évolué. Ce n'est pas seulement la quantité, c'est la manière dont on utilise les antibiotiques qui fait toute la différence. Un usage raisonné, ciblé et encadré, voilà la clé pour préserver ces précieux alliés de la santé.
Merci beaucoup à vous. Et est-il possible d'avoir une sorte de synthèse et si possible plus axée au niveau français.
Alors oui, je suis allée chercher sur santégouv.fr, Santé Travail et le ministère des Transitions écologiques quelques informations complémentaires pour vous. La France renforce son combat contre un fléau silencieux mais mortel, l'antibiorésistance. En septembre 2024, le gouvernement a lancé une feuille de route interministérielle sur 10 ans, avec une stratégie baptisée « Prévention et réduction de l'antibiorésistance, lutte contre la résistance aux antimicrobiens ». Une approche globale, dite « une seule santé », qui relie la santé humaine, animale et environnementale. Objectif : agir sur tous les fronts. Cette stratégie repose sur 5 grands axes. Former et sensibiliser tous les acteurs, du médecin au vétérinaire, renforcer la recherche pour mieux comprendre comment les résistances se développent, améliorer la surveillance de façon intégrée, optimiser l'usage des antibiotiques existants tout en soutenant l'innovation, et enfin agir à échelle internationale en aidant les pays les plus vulnérables. Cette feuille de route complète des plans déjà en place, comme le plan Eco-Antibio 3 pour les animaux ou la stratégie nationale pour la santé humaine. Chaque année, en France, 125 000 infections et 5 500 décès sont attribués à l'antibiorésistance, selon l'Inserm. Et dans le monde, 1,3 million de morts en 2019, avec une projection dramatique de 10 millions de morts de décès par an d'ici 2050 si rien n'est fait, selon Radio France. Mais nous avons tous et toutes un rôle à jouer. N'utilisez les antibiotiques que sur prescription. Suivez bien les doses et la durée indiquées. Pas d'automédication ni d'antibiotiques partagés et surtout des gestes simples d'hygiène peuvent éviter bien des infections. Ensemble, faisons bloc contre la résistance aux antibiotiques.
Merci beaucoup à vous Lola et je tiens encore à vous remercier vous cinq pour toutes ces informations et interventions. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Je pense, mesdames et messieurs, que nous serons d'accord pour dire que nous savons un peu plus concernant l'antibiorésistance et que cela n'est pas quelque chose à prendre à la légère. J'espère que vous avez pu apprendre des choses. Je vous remercie encore. C'était Marsolus et je vous souhaite une très belle fin de journée.
Bonjour à nos chers auditeurs et auditrices. Bienvenue sur l'autre radio. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de 4 élèves de première du lycée Victor Hugo à Château-Gontier pour un projet en SVT sur la cancérisation et les maladies cardiovasculaires. Déjà, il est important pour nous de vous rappeler ce que sont les maladies cardiovasculaires. Ce sont des maladies qui touchent le cœur ou les vaisseaux sanguins. Nous voulions vous préciser que le cancer est une maladie causée par des mutations dans certains gènes. Ces mutations peuvent activer des oncogènes favorisant la division cellulaire, inactiver des gènes suppresseurs de tumeurs ou altérer les gènes de réparation de l'ADN. Enfin, ces mutations peuvent survenir héréditairement ou à cause de facteurs comme le tabac ou les UV. Une personne sur 3 déclenche un cancer. Dans cette émission, nous avons choisi de répondre à la question suivante : comment limiter le cancer en termes de prévention et de guérison ? On terminera par un micro-trottoir ciblant le dépistage présenté par Evan et Sarah. Mais d'abord, nous commençons par une interview sur le papillomavirus dirigée par Héloïse et Léna. Bonjour les filles.
Bonjour.
Bonjour, nous sommes avec Madame Brochard, l'infirmière du lycée Victor Hugo. Nous allons lui poser des questions sur le papillomavirus. C'est parti.
Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une interview sur le papillomavirus, aussi appelé HPV, avec l'infirmière du lycée Victor Hugo.
Bonjour, donc selon vous, quelle est la tranche d'âge moyenne des personnes ayant un cancer dû au papillomavirus ?
Alors la tranche d'âge moyenne, c'est entre le lycée vers 17 ans jusqu'à 50 ans à peu près. C'est une moyenne d'âge. On peut avoir toujours des exceptions, c'est comme dans le cancer du sein, des gens plus tôt ou plus tard, mais c'est pour ça que les campagnes de vaccination, c'est dans cette partie-là, on commence au collège.
Quelle est la méthode la plus pratiquée pour soigner les cancers du HPV ?
La méthode la plus imparable qui a fait ses preuves au Canada, c'est la vaccination qui doit être faite, les 3 injections avant les premiers rapports sexuels. Ça a prouvé son efficacité. Mais attention, il ne faut pas se leurrer non plus. Ce n'est pas parce qu'on a été vacciné qu'il ne faut pas un suivi gynécologique. Il faut régulièrement un frottis puisque c'est comme ça qu'on va le dépister. Donc voilà, moi, la première campagne, c'est la vaccination. Je le recommande. Quand il y a eu les premières recommandations de l'OMS, c'était vraiment la vaccination. Les parents ne savaient pas trop comment faire parce qu'il y a aussi des associations anti-vaccins qui ont dit que le vaccin entraîne pas mal d'effets secondaires. Il faut toujours réfléchir sur le bénéfice-risque sur l'ensemble d'une population, mais la vaccination a fait ses preuves.
Est-ce qu'il existe des facteurs de risque spécifiques qui augmentent la probabilité de développer un cancer après une infection au HPV ?
Il me semble que le fait d'avoir des multipartenaires et sans protection peut favoriser cette contamination. En règle générale, il faut savoir que le HPV, la femme l'élimine d'elle-même dans son corps, sauf qu'il y a des situations où elle ne peut pas le faire. Alors effectivement, plus vous avez de relations sexuelles multiples et variées sans protection, est un facteur de risque. Et puis le suivi gynécologique, hein, si vous n'avez pas de suivi gynécologique, forcément on ne pourra pas le dépister tôt et donc pas le soigner rapidement, quoi.
Quels sont les premiers signes et symptômes d'un cancer lié au HPV?
Je pense qu'il est indolore au départ, je pense que c'est le frottis qui va faire dépister par rapport, et puis le gynéco qui va avoir comme des petites crêtes de coque, des choses comme ça au niveau du col de l'utérus. La consultation gynécologique est importante.
Donc comme on a parlé tout à l'heure, comment le vaccin il fonctionne contre le HPV et à quel âge il est recommandé de se faire vacciner?
Comme tout vaccin, c'est-à-dire qu'il va, il va créer des anticorps pour défendre du virus, pour l'attaquer et puis protéger alors, d'une grande partie les plus virulents, parce que vous en avez plusieurs, hein, les plus virulents, et pour éviter que ça devienne un cancer.
La guérison du cancer lié au papillomavirus est-elle définitive?
Alors c'est un cancer où on meurt. Hein. Je crois qu'il y a à peu près 1000 personnes qui meurent par an, hein, du cancer du col de l'utérus, du papillomavirus, du cancer du col de l'utérus. Alors avant, il y a des possibilités. Hein. On fait une conisation, on coupe une partie là, du col de l'utérus pour enlever les parties des cellules cancéreuses. Hein. On coupe en conisation, comme en cône, comme ça. Après, il y a des traitements qu'on peut faire, mais l'évolution, si elle est prête à temps, il y a des chances de guérir. Après, tout ça, ça dépend, comme tous les cancers, à quel stade on l'a pris en charge. Quoi.
Et pour finir, selon vous, est-ce qu'il y a des endroits et des lieux sur Terre où les personnes touchées sont beaucoup plus nombreuses qu'autre part?
Alors peut-être dans les pays où il n'y a pas de consultation, où les femmes ne sont pas suivies, probablement dans les pays sous-développés. Alors c'est pas péjoratif ce que je veux dire là, mais ils n'ont pas accès aux soins et à la surveillance. En France, je pense qu'on est assez sensibilisés. Les femmes, elles voient à peu près tous les 2 ans. Hein, les médecins gynécologues recommandent un frottis tous les 2 ans, hein, pour surveiller ça. Je pense que les femmes le font. Voilà, c'est comme le cancer du sein, c'est pas la peur qui va éviter le. Mais plutôt ça va être pris, mieux ça va être soigné.
Merci pour ces réponses. Grâce aux réponses de Madame Brochard, nous pouvons conclure que le HPV, plus communément appelé papillomavirus, est un virus très répandu qui peut être responsable de plusieurs types de cancers, notamment du col de l'utérus, de l'anus ou de la gorge. La vaccination, recommandée dès l'adolescence, ainsi que le dépistage régulier, joue un rôle crucial dans la prévention et la réduction des risques d'infections persistantes. Malgré ces mesures de précaution, les cancers liés au HPV restent complexes à traiter, nécessitant souvent des interventions chirurgicales, des traitements par radiothérapie ou chimiothérapie et un suivi médical rigoureux. La sensibilisation et l'accès aux soins demeurent essentiels pour limiter la propagation du virus et améliorer la prise en charge des patients.
Merci pour cette interview et merci à votre invité. Nous poursuivons l'émission en vous amenant dans les rues de Château-Gontier avec Evan et Sarah. Bonjour, qu'est-ce que l'on va découvrir dans votre micro-trottoir ?
Bonjour, nous sommes allés à la rencontre d'une dizaine de personnes pour leur poser quelques questions à propos du dépistage des cancers. Le dépistage est essentiel dans la lutte contre le cancer. Le nombre de nouveaux cas augmente d'année en année. On va donc voir si tout le monde se sent concerné par la prévention en écoutant leurs témoignages.
En effet, les cancers touchent énormément de personnes. La prévention est donc un objectif fondamental pour limiter le nombre de cas. D'ailleurs, bonne nouvelle, 2 personnes sur 3 en guérissent. C'est parti pour le micro-trottoir.
Bonjour, nous sommes 2 élèves du lycée Victor Hugo en première spécialité SVT et nous avons abordé un chapitre sur la génétique et santé. Aujourd'hui, nous recherchons des témoignages à propos du dépistage du cancer pour une émission qui sera diffusée sur l'autre radio.
Avez-vous déjà effectué un dépistage du cancer et si oui, dans quelles circonstances?
Oui, à cause de l'âge, dépistage du cancer du côlon, dépistage du cancer du sein.
Alors, j'ai fait des coloscopies suite au fait que ma maman avait eu un cancer du côlon. Voilà, donc à partir de la quarantaine, régulièrement, tous les 5 ans, on nous propose de faire une coloscopie. Voilà.
Alors, j'ai pas fait de dépistage du cancer du colorectal, mais je suis suivi depuis plusieurs années pour la prostate. Que j'avais fait une rétention urinaire en 2005 et... J'ai eu un dépistage assez prononcée, quoi. Alors ensuite, bon, pour le cœur aussi, j'ai un peu de tension. Et puis éventuellement maintenant pour la vue, vous savez, quand on approche de 79 ans, bon, on est plus près de la fin que de l'entrée en sixième, hein, c'est certain. Hein.
Oui, je me suis déjà fait dépister plusieurs fois. Ce sont les recommandations des sages-femmes et gynécologues. Tous les 3 ans, on fait le frottis.
Qu'est-ce qui vous empêcherait de vous faire dépister et avez-vous des a priori par rapport au dépistage du cancer ?
Alors, ce qui m'en empêcherait, ce serait d'apprendre une mauvaise nouvelle et que ce soit dommage et que ça me gâche un peu ma vie, comme je suis une adolescente. Et les a priori, c'est que on pense souvent que ça ne peut pas nous atteindre, nous, et que en plus, en étant jeune, mais au final, j'ai déjà eu des expériences comme quoi on peut les avoir à tout âge et dans n'importe quelle circonstance. Donc, voilà.
J'ai pas forcément d'a priori, mais je pense que la peur, ça serait d'avoir un résultat positif et que ça bouleverserait ma vie.
Eh ben, écoutez, c'est vrai qu'à l'âge de... Je vais avoir 45 ans, donc ce qui m'empêcherait de me faire dépister, c'est surtout que j'ai peur qu'il y ait un résultat positif derrière. Donc, pour le coup, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, mais c'est vrai qu'il serait plus intelligent de le faire quand il le faut.
J'ai pas d'a priori. Je pense que si on en ressent le besoin, il faut aller faire un dépistage. Et moi, je me dis, c'est sûr qu'à force de chercher, on peut trouver quelque chose de mauvais, mais en même temps, il faut le faire si on veut être soigné.
D'après ces témoignages, il apparaît que de nombreuses personnes hésitent à se faire dépister par crainte des résultats. Certaines évitent même toute démarche de prévention afin de ne pas se sentir concernées. Toutefois, au sein d'une certaine tranche d'âge, notamment à partir de 50 ans, et en particulier chez les femmes, une plus grande vigilance est observée, conduisant à un recours plus fréquent au dépistage.
Merci à vous deux, Sarah et Evan, pour ce micro-trottoir enrichissant, et à tous ceux qui ont participé, bien sûr. En effet, les réponses étaient diverses. On en conclut que chaque individu a une vision différente du dépistage. Il ne faut pas, il ne meurt pas. Sur ce, nous vous invitons à aller vous faire dépister, même si vous n'avez aucun symptôme, à vous déplacer sur des sites de prévention, consulter. Dans une prochaine émission, nous aborderons les maladies cardiovasculaires qui sont la première cause de mortalité dans le monde. En attendant, portez-vous bien.